un podcast France Culture.
Les mains d'un homme serrant la poignée d'une bêche ou agitant les fils d'une marionnette, la poitrine d'une paysanne allaitant un nouveau-né, une cruche géante portée sur les épaules d'une indigène, voilà quelques-uns des clichés pris dans les années 1920 dans un Mexique encore bouleversé par la Révolution. Son auteur, une photographe italienne du nom de Tina Modotti. Cette artiste, qui fut d'abord mannequin et actrice du muet, a pris fait et cause pour les classes laborieuses d'Udine à Madrid en passant par Mexico et San Francisco. Pour parler de l'économie selon Tina Modotti, nous avons invité Gérard de Cortance, écrivain, essayiste, auteur de « Moi, Tina Modotti, heureuse parce que libre » paru chez Albin Michel en 2020. Également avec nous Eugenia Parliraki, maîtresse de conférences en histoire contemporaine de l'Amérique latine à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, autrice avec Clément Thibault de cet ouvrage « Deux siècles de révolution et de contre-révolution, l'Amérique latine embrasée » paru chez Armand Collin l'an dernier. Une émission préparée par Diane Devant, Léa Sabourin, Anouk Miliot, Tina Young, Léopold Thiévan et Inès Gender.
Tina te plaira, c'est une photographe extraordinaire, l'une des rares à avoir du goût. Tu connais Alvarez Bravo ?
Je connais son travail. Ah. Il est bon.
Je vais te le présenter, il voudra te photographier.
Toute nue, évidemment.
Évidemment. C'est ça le problème avec ces radicaux. Ils sont un peu dangereux, mais ils donnent vraiment les meilleures soirées.
Ah, le voilà, le monstre.
Tina. Voici Frida Kahlo. C'est un peintre fabuleux.
Elle voudrait devenir un peintre fabuleux.
Sois pas modeste. On a tous des doutes sur notre travail, excepté Diego. C'est le seul à n'avoir aucun doute.
Bonjour Eugenia Parliraki et Gérard de Cortance.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors Tina Modotti a eu une vie extraordinaire. Elle a été actrice à Hollywood. Elle a vécu l'après-révolution mexicaine avec Diego Rivera et Frida Kahlo que l'on entendait dans cet extrait du film Frida et bien d'autres avant de rejoindre les rangs des Républicains pendant la guerre d'Espagne avec toujours ce souci comme photographe et comme militante de défendre les travailleurs, Gérard de Cortance.
Oui, alors c'est peut-être plus complexe que ça. Je vais commencer par une citation, si vous voulez, de Frida Kahlo, de Tina Modotti. Elle dit « Je sais que le problème de vivre influe profondément sur le problème de la créativité artistique. » Donc vous avez là toute la problématique de Tina Modotti et qui dépasse sa simple relation avec la classe ouvrière. Deuxième chose, dans le studio, ici, il y a une photo qui s'appelle « La femme au drapeau ». La femme au drapeau, c'est une photo qui est totalement posée, fabriquée. C'est censé représenter une indienne. Tout y est, hein. Le visage de profil, la robe, la ceinture. Mais si vous descendez, vous voyez les jambes avec les pieds. Et vous avez des bas et des chaussures vernies de ville. C'est-à-dire que la femme qui pose n'est pas une indienne. Donc, mais le message est un message politique. Et c'est vraiment toute la problématique que posent les photos et l'engagement de Tina Modotti, à mon sens, est là. C'est-à-dire qu'on a, me semble-t-il, trop tendance à toujours la relier. Et c'est ce qu'il y a un peu dans l'exposition, qui est merveilleuse. Moi, j'engage tout le monde à aller la voir.
L'exposition qui a eu au Jeu de Paume en ce moment à Paris.
C'est toujours sous l'angle un peu politique. Et il y a tellement d'autres choses dans le travail de Modotti.
Et oui, et on comprend que pour Tina Modotti, ce sont les conditions de vie, les conditions économiques et sociales qui permettent à l'art de naître. Et c'est pour cela que c'est aussi important pour elle, Eugenia Parliraki.
Oui, tout à fait. Oui, elle a vécu elle-même la mobilité transatlantique pour des causes économiques. Hein. Elle migre de l'Italie vers les États-Unis où se trouvait déjà son père, mais je pense qu'on va en reparler. Et puis, elle part vers le Mexique, à la fois pour des causes personnelles et politiques. Et son art, mais aussi sa trajectoire, montre et sont la preuve, incarne cet engagement qui est à la fois politique, intellectuelle, artistique et sociale. D'ailleurs, quand elle renonce à la photographie, cet engagement social et la solidarité avec les réfugiés et avec les personnes qui souffrent reste, et ce, jusqu'à la fin de sa vie.
Oui, elle a été de nombreux combats, on va en parler, mais d'abord, il faut rappeler qu'elle est née en 1896 à Udine, donc dans le Frioul, cette région du nord-est de l'Italie, frontalière de l'Autriche, et autour d'elle, Gérard de Cortance se trouve des artisans et des artistes.
Oui, alors c'est une famille qui est pauvre. Son père est mécanicien, sa mère est couturière. Au total, il y aura 7 enfants. Et le Frioul est une région très particulière de l'Italie. D'ailleurs, il pleut beaucoup. À la charnière 19e et 20e, c'est une région qui est plutôt riche, mais elle est riche, comment dire, les possédants. Les grands capitalistes, les grands industriels sont riches. La classe ouvrière, les paysans sont pauvres, ce qui n'étonnera personne. Et donc, il y a une migration régulière. Ces gens, régulièrement, vont en Autriche. Alors, il y a deux types d'émigration. C'est-à-dire, il y a les paysans qui vont prêter leurs bras. Et il y a aussi une émigration ouvrière qui est différente. Mais il faut imaginer, hein. On est en 1905-1906, il y a 200 km à faire dans les Alpes, il y a de la neige, et ces gens arrivent, pensant trouver le Pérou, et ils trouvent une situation de vie très compliquée.
Et pourtant, quand le père de Tina Modotti décide justement de partir près de Klagenfurt en Autriche, il trouve un emploi dans une usine de bicyclettes, c'est un moment où le niveau de vie moyen de la famille s'améliore un peu, Gérard de Cortance.
Exactement, et alors d'ailleurs c'est un inventeur, il invente un cadre de vélo en bambou. Pour son malheur, l'usine va faire faillite. Donc, en fait, ils vont rester 5-6 ans, à peine, en Autriche. Ils vont revenir. Et la langue, là aussi, c'est essentiel. C'est la langue principale de Tina, c'est l'allemand. Sa première langue, c'est l'allemand. Quand elle rentre en Italie, elle ne parle pas italien. De toute façon, les parents parlent le frioulien ou l'allemand. C'est une très bonne élève. Mais ce qu'elle va retenir toute sa vie de ce séjour très court en Autriche, c'est pour ça que je parlais de sa relation à la politique et à l'art tout à l'heure. C'est une manifestation qui a lieu le 1er mai. Et lors de cette manifestation, elle est sur les épaules de son père. Et elle décrit dans une lettre à Weston, plus tard, cette espèce de d'enthousiasme qu'il y avait. C'est-à-dire, il y avait des drapeaux, il y avait des couleurs, il y avait des chants magnifiques. Et elle dit, au fond, ce n'était pas des ouvriers et des paysans, c'était des frères et des sœurs qui luttaient. Et donc, c'est très beau, on est dans l'épopée. Et on va retrouver ça dans une toile, dans une photo qu'elle va prendre en 26. Elle est sur sa terrasse. Il y a une manifestation, enfin, du 1er mai. Hein, la fête du travail, il y a des ouvriers, et il y a deux clichés. Il y a un cliché qui est en plan éloigné, où on voit les banderoles, on voit les jambes, les mains, les chapeaux, et il y a un deuxième cliché qu'elle préfère, qui est un cliché très rapproché, c'est-à-dire on ne voit plus que les chapeaux.
C'est une mer de chapeaux, et c'est un de ses clichés les plus célèbres.
C'est un des clichés les plus célèbres, et c'est les plus importants, parce que là on est au centre de son rapport à la photographie, c'est-à-dire c'est totalement artistique. C'est graphique, mais ce qui sous-tend ça, il y a deux choses. Il y a le souvenir d'enfance, la faille d'enfance, et puis, en même temps, bien entendu, il y a la prise de position politique. C'est pas n'importe quoi, c'est un 1er mai.
Et son engagement politique lui vient de son père, qui est un militant marxiste à une époque où le socialisme se développe en Italie, justement en s'appuyant sur la dénonciation de ce que vous avez évoqué, ces conditions de travail déplorables, ce chômage qui explose à ce moment-là dans le nord de l'Italie, et tous ces mouvements sociaux qui parfois se terminent en affrontements violents avec la police.
Absolument, et puis c'est le début des utopies socialistes, enfin c'est le début des mouvements, enfin, des syndicats. Ils sont tout à fait pris dans cet ensemble-là. Il y a l'oncle aussi. Alors, c'est pas innocent, l'oncle qui est photographe. Mmh. Et c'est un peu comme Frida Kahlo. Alors c'était le père qui était photographe, mais là c'est l'oncle. Et les deux petites filles, et Frida d'un côté et Tina de l'autre, vont dans l'atelier de un du père, une du père, l'autre de l'oncle, pour travailler, pour s'initier à comment dire, à un regard sur la vie. On va cadrer la vie. Et ça, c'est, on va retrouver ça dans tout le travail de Tina. Alors effectivement, il y a tout cet ensemble politico-économique. Qui va faire qu'à un moment donné, le père va partir aux États-Unis. Vous savez qu'à l'époque, sur 25 millions d'Italiens, il y en a 3%, ce qui est énorme, qui ne partent qu'aux États-Unis.
On va venir à la question de la migration, mais d'abord, peut-être qu'il faut dire que si ces inégalités suscitent ainsi un engagement politique militant des socialistes, des premiers socialistes italiens, parmi lesquels le père donc de Tina Modotti, c'est parce que à ce moment-là, il y a une vraie croissance économique dans cette région du Frioul, il y a une vraie richesse qui est créée.
Mais absolument, est-ce que vous savez, par exemple, que Udine, c'est une des premières villes d'Europe entièrement avec l'éclairage électrique. c'est le bout du monde. C'est une petite ville italienne et parce qu'il y a de la houille, il pleut. Enfin, il y a des voilà. Et donc il y a un développement économique énorme, mais qui ne bénéficie pas à toutes les couches de la société. Dans la famille Modotti, elle se retrouve très vite toute seule support de famille puisque le père est parti à San Francisco, comme beaucoup d'Italiens, tout simplement pour remonter la ville qui a subi un tremblement de terre. On est très au courant de tout ça. Et en fait, elle travaille dans une usine de soie, comme beaucoup d'enfants de l'époque, ce qui est absolument horrible. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on utilise des enfants là? C'est parce qu'ils ont des petits doigts très habiles, et tout ce travail de la soie nécessite des petits doigts habiles.
Oui, elle travaille 12 heures par jour à cette époque, alors qu'elle n'a que 12 ans. Voilà.
Elle est soutien de famille.
Et c'est vraiment à ce moment-là qu'elle se confronte à la grande pauvreté, Gérard de Cortés.
Oui, et il y a une anecdote qui je trouve terrible et tellement intéressante. C'est-à-dire qu'il y a une de ses tantes qui lui offre un foulard. Et elle affecte de ne pas aimer le foulard. Alors que tout le monde sait qu'elle adore, elle n'a pas grand-chose, juste un foulard. Et elle finit par le vendre à une de ses copines ouvrières. Elle a un petit peu d'argent et elle achète à manger un soir pour sa famille. Et tout le monde feint enfin, les gens de la famille se disent, mais d'où vient cet argent? Tout le monde sait qu'elle a vendu le foulard, mais personne ne le dira. À commencer par elle, bien évidemment.
Et ce n'est évidemment pas anodin qu'elle travaille dans cette industrie textile qui, en ce début du XXe siècle, occupait près de la moitié de la main-d'œuvre dans le Frioul, Gérard de Cortés.
Absolument, c'est ça. C'est-à-dire que toute de cette époque, c'était essentiellement autour de la soie. Enfin, il y a toutes les soieries, alors certaines qui viennent d'Inde, d'autres d'Angleterre, et tout ça est petit à petit remplacé par une soierie, comment dire, beaucoup plus meilleur marché et qui est fabriquée en Europe. Et on fabrique, évidemment, ça part d'Italie, ça part d'Espagne, ça part de France.
France Culture.
Tina, on vient à peine de se retrouver. Déjà, qu'est-ce que tu fais? Où vas-tu?
En seconde. Je l'avais dit, je voulais pas voyager en première, mais comme d'habitude, tu ne m'as pas écouté.
C'est ça, parmi les Indiens somnolents, les soulards, les soldats.
T'as fini?
Entendez-vous l'écho?
Je préfère m'entasser au milieu des pauvres, sur des sièges en bois, que sur des sièges en cuir, à côté de bourgeois prétentieux et parvenus. Tu m'ennuies, Édouard. Laisse-moi.
Tiphaine de Roquigny.
Voilà, cette altercation avec le photographe Edward Weston, son amant, qui interviendra évidemment bien plus tard, montre l'importance de la classe ouvrière pour Tina Modotti. Elle grandit vraiment avec la conscience d'appartenir à cette classe, Gérard de Cortés.
Ah oui, toute sa vie, d'ailleurs tout son engagement politique vient de cela. C'est là qu'elle trouve la force, d'ailleurs, de quitter cette famille pour rejoindre son père. Il faut imaginer quand même, hein, cette gamine, elle a 17 ans, elle va partir de Udine, elle va arriver à San Francisco, c'est 3 semaines de voyage. Donc, Udine, Gênes, New York, San Francisco. Et alors, elle part avec une petite mallette, un petit peu de quelques dollars, et un chapeau, un petit chapeau, avec des fleurs que sa mère couturière a fabriquées parce qu'on a dit, tu sais, aux États-Unis, les femmes élégantes ont des chapeaux avec des fleurs. Moi, je passe, c'est quelque chose qui me ravit. Et Mayakovsky va aller aux États-Unis peu de temps après ce premier voyage de Tina Modotti. Et alors, il a une phrase terrible pour décrire le voyage. Il dit au fond, les troisième classes, plutôt les premières classes vomissent sur les secondes sur les troisièmes, les secondes sur les troisièmes, et les troisièmes se vomissent sur elles-mêmes.
Il y a un autre artiste qui fait la traversée, mais lui, 10 ans avant Tina Modotti, c'est Frank Capra qui traverse ainsi l'Atlantique en 1903. Tina Modotti, ce sera en 1913. Le réalisateur de La vie est belle et d'Arsenic et vieille dentelle raconte cette traversée dans son autobiographie Hollywood Story, publiée en 1971. Extrait. Je célébrais mon 6e anniversaire le 18 mai 1903 au milieu d'une effroyable tempête en plein Atlantique, dans le sombre entrepont du Germania bondé d'immigrants terrorisés, priant ou vomissant. Seule maman fut assez forte pour affronter le vent et l'écume. Elle traversait le pont vacillant en s'accrochant au cordage de sécurité et descendait le raide escalier métallique pour apporter des victuailles à papa et à 4 enfants malades à crever. 13 jours de souffrance et de puanteur en 4e classe. 2 jours supplémentaires de panique et de confusion à Ellis Island. Et finalement, après 23 jours, sans avoir pris un bain et sans s'être changé, notre famille d'immigrants faméliques et sales embrassa Ben qui nous attendait à la gare de Los Angeles. Papa et maman baisèrent le sol et pleurèrent de joie. Je pleurais, moi aussi, mais pas de joie. Je pleurais parce que nous étions pauvres, ignorants, exténués et sales. Objectif numéro 1, le fric. Les espèces sonnantes et trébuchantes. Le seul moyen de rester hors de portée du vieux spectre de la faim. En moins d'un mois, papa, maman et tout le reste de la famille avaient trouvé du travail. Des briqueteries, des fabriques d'huile d'olive et des boutiques d'habillement, des confiseries. Tout sauf moi. Moi, j'allais à l'école de Castellar Street. Gérard de Cortan, c'est donc une traversée similaire qu'a connue Tina Modotti et des millions d'émigrants en ce début du XXe siècle.
Oui, et c'est encore pire par rapport. C'est une jeune fille toute seule. Oui, on se demande, moi, je me suis toujours demandé, mais comment est-elle arrivée entière? Et alors, quand elle arrive à San Francisco. Et alors là, c'est un choc terrible. Faut imaginer. Elle vient donc de cette classe ouvrière exploitée, surexploitée, et tout à coup, elle se retrouve à San Francisco. Si vous connaissez San Francisco, il y a la baie de San Francisco. Parfois, il y a le soleil de San Francisco. Il y a la vie aux États-Unis à cette époque-là. Et puis le père, alors pour le coup, il avait loupé son coup avec le vélo au cadre en bambou. Mais là, je dis pas qu'il est riche, mais il a un petit peu d'argent. Pourquoi? Parce qu'il a fabriqué. Dans Little Italy, San Francisco, parce que chaque ville des États-Unis, il y a toujours un Little Italy, comme un Chinatown, enfin bon. Donc là, il y a un Little Italy, et dans ce Little Italy, il y a toute une communauté très importante italienne. On en parle là, avec des théâtres, avec des journaux, avec des cinémas. Bon, toute cette communauté évidemment, se nourrit de littérature, de nourriture italienne. Enfin, on emporte avec soi son pays. Eh bien, il invente une machine à fabriquer des raviolis et qu'il appelle Mercedes, c'est-à-dire du prénom de sa fille la plus âgée qui l'accompagnait. Il gagne un peu d'argent parce que tous les Italiens ont cette machine à fabriquer des raviolis. Donc, ce qui fait qu'elle arrive là, donc il y a une certaine opulence presque, et il vit dans une maison avec des étages hein, dans cette ville avec ses collines, ses montées et ses descentes. Et là, très vite, elle est très jolie, la petite Tina. Donc, elle devient mannequin cabine. Elle fait des photos pour la publicité. Et puis, faut pas oublier que le cinéma muet commence. Et là, c'est une industrie énorme.
Et justement, comment est-ce qu'elle est repérée hein, par un recruteur de talent?
C'est-à-dire que Les metteurs en scène, alors qui n'ont pas une importance énorme à l'époque, hein, c'est plutôt des techniciens. C'est un petit peu plus tard que on va dire voilà, il y a un metteur en scène qui a tel nom, qui est important, il a une œuvre et tout. Non, au départ, ce sont des techniciens qui fabriquent des films. Eh bien, ces techniciens ont besoin d'archétypes. Alors, ils vont à Little Italy. Qu'est-ce qu'ils vont ? Ils vont trouver des Latin lovers, hein, l'Italien type Latin lover, et puis des jolies italiennes qui vont être des prostituées, des briseuses de couple. Et des métèques.
Et elle, elle est vraiment cela. Elle est la femme fatale.
Ah bah, elle est la femme fatale. Et elle a tourné dans peu de films parce que très vite elle a laissé tomber tout ça.
C'est I Can Explain et The Tiger's Code.
The Tiger's Code, voilà. C'est ça. Et là, c'est la briseuse de couple type. Mais elle est repérée par le cinéma, elle est repérée par le théâtre. Mais surtout, elle arrive dans un milieu. Il y a une exposition. Internationale. Là, elle va croiser, d'ailleurs, pour la première fois, sans s'en rendre compte, les photos de Weston qui sont exposées. Elle va rencontrer son futur mari, qu'on appelle Robot.
Qui est un poète d'origine québécoise.
Qui est un poète d'origine québécoise, qui est une sorte de dandy, un drôle de personnage, mais surtout qui va la mettre en relation avec, comment dire, toute la culture. C'est-à-dire la lecture, et ils vont lire Eliot, ils vont lire Ulysse de Joyce. Vous rendez compte, cette petite jeune fille qui vient du Frioul, où on n'a jamais entendu parler d'Eliot ou de James Joyce, ou des recherches comment dire, en littérature, en sculpture, en peinture, enfin... Bon.
Et elle va s'installer à Los Angeles avec Robot, donc, qu'elle épouse en 1917. Et c'est dans cette ville qu'elle rencontre donc le photographe Edward Weston, pour qui elle pose à partir de 1920. Ce qui va commencer alors, Gérard de Cortance, c'est une relation à la fois amoureuse et artistique entre Weston et Tina.
Ah oui, alors, écoutez, moi j'ai la même, c'est très personnel. Hein. Le regard que j'ai sur Weston, c'est un peu celui que j'ai sur Diego. C'est-à-dire, je ne supporte ni l'un ni l'autre.
Rivera.
C'est-à-dire que le Weston, c'est une sorte de tombeur, comme ça, qui trompe sa femme. Alors, pendant que sa femme s'occupe de ses enfants, lui a des aventures à droite à gauche.
Il a quatre enfants, je crois.
Voilà. Alors, comment dire, je pense que la relation qu'il a eue avec Tina Modotti était réelle, était passionnée. Mais enfin, n'empêche qu'on ne peut pas, on a du mal à oublier quand même la femme qui est derrière et les quatre enfants.
Donc, qu'il a abandonné, femme et enfant,
qu'il
abandonne
quand même, malgré tout. Et donc, relation passionnée, c'est évident. Grand photographe, c'est évident. Mais Tina, là encore, je veux dire, c'est exactement ce qu'elle veut. C'est-à-dire, elle lui dit, d'accord, je suis follement amoureux de toi. Il y a des lettres magnifiques de Tina à Edward Weston. Mais moi, je veux une chose. Tu m'apprends la photographie. J'ai envie de devenir photographe, donc c'est une sorte de pacte entre eux. On vit ensemble, on va partir à un moment tous les deux au Mexique, mais tu m'apprends les rudiments de la photographie.
Oui, ils ouvrent ainsi ce studio de portraits en 1923 à Mexico, mais le projet artistique de Tina Modotti, Eugenia Pagliaracchi, est très différent de celui de Weston, parce que son engagement à elle, justement, il est social et politique, beaucoup plus que Weston.
Oui, elle fréquente ou il fréquente très rapidement des cercles d'intellectuels. Il faut rappeler que dans les années 20, au début des années 20, nous sommes à la fin de la guerre révolutionnaire mexicaine, la révolution qui avait commencé en 1910 contre celui qui était alors président, Porfirio Diaz, qui était resté au pouvoir 35 ans, qui avait beaucoup changé le pays, mais qui était devenu de plus en plus autoritaire. Et le Mexique affronte aussi des énormes problèmes sociaux. C'est un pays marqué par les inégalités sociales, par une paysannerie très massive, analphabète, qui vit dans des conditions extrêmement précaires, par des ouvriers qui vivent mieux que la paysannerie, qui ont des taux plus importants d'alphabétisation, ce qui donne accès au droit de vote, mais qui en même temps sont de plus en plus discriminés, en grève, réprimés par le régime. Et donc cette révolution qui commence en 1910 mobilise à la fois les paysans, les ouvriers, les classes moyennes éclairées, des élites libérales, et elle débouche assez rapidement sur le renversement de Porfirio Diaz, mais Ensuite, il y a toute une guerre révolutionnaire qui dure pendant toutes les années 1910.
Pour bien comprendre les origines de cette révolution mexicaine, j'aimerais vous faire entendre un extrait du film d'Elia Kazan, Viva Zapata, de 1952. Un extrait dans lequel le président Diaz reçoit des paysans mécontents.
Eh bien, mes enfants, pourquoi venez-vous me voir, dites-moi? Que l'un d'entre vous parle. Vous venez bien pour quelque chose.
Ils nous ont volé nos terres.
Qui est-ce qui a volé vos terres? Mes enfants, quand on porte une accusation, il faut avoir des faits précis. Qui a volé vos terres?
La grosse propriété.
Ils ont pris nos verts pâturages.
Ils ne nous ont laissé que les collines arides.
Le maïs ne peut plus y pousser.
C'est vrai.
Ils l'ont entouré de barbelés.
Nos troupeaux ont faim.
Ils ont planté de la canne à sucre dans nos champs de maïs.
Pouvez-vous prouver que ce champ est à vous?
Ces terres appartiennent à notre village depuis toujours. On a un papier signé du roi d'Espagne. On a un papier de la République du Mexique.
Si ce que vous dites est vrai, le problème est résolu. Mes enfants, le tribunal tranchera. Je vous enverrai mon avocat personnel.
Eugenia Paliéraki, ce sont ces revendications des paysans qui vont mener à la révolution mexicaine qui démarre en 1910.
Oui, entre autres, les ouvriers se mobilisent aussi beaucoup, demandent une législation sociale, une protection au travail. Enfin, nous avons évoqué tout à l'heure les terribles conditions de travail dans l'industrie textile de la soie en Italie, mais au Mexique, il y avait aussi une florissante industrie du textile et où les conditions de travail sont également terribles. Et c'est aussi le cas dans le nord du Mexique, les mines, etc. Mais effectivement, l'un des acteurs sociaux les plus massifs qui participent à la révolution et qui lui donnent une vraie dynamique, ce sont les paysans. De certaines régions du Mexique, dans le sud du Mexique, qui est plus traditionnel, où il y a des formes de domination plus radicales, la révolution est moins présente. Mais dans le centre du Mexique, dans le nord, il y a de très fortes mobilisations paysannes qui parfois se mêlent, parfois s'opposent aux mobilisations ouvrières.
Puis les problèmes religieux aussi.
Tout à fait.
Et là-dessus, justement, comment est-ce qu'on peut définir ce qui est reproché au régime de Porfirio Diaz, Eugenia Paliéraki, puisque c'est un régime qui est dominé par un favoritisme généralisé, beaucoup de corruption?
Oui, beaucoup de corruption. Et puis, Porfirio Diaz, il a, comme les élites latino-américaines de cette époque, le projet de moderniser le pays. Ce qui veut dire, pour faire bref, développer l'économie d'exportation. Mmh. Par exemple, en exportant du pétrole ou des produits industriels vers les États-Unis, qui investissent massivement au Mexique. C'est aussi développer les transports, mais surtout pour transporter les marchandises. En fait, ce ne sont pas les personnes qui voyagent, mais les marchandises. Et dans le même temps, cette politique économique-là amène à une exclusion, à une marginalisation de plus en plus forte. Et parmi les produits d'exportation, il y a aussi les produits agricoles. Et donc, pour pouvoir produire plus, Porfirio Diaz et les élites économiques qui l'entourent privilégient la formation de grands domaines agricoles, ce qu'on appelle les haciendas. Et donc, ce qui se passe dans les régions agricoles, indigènes, où il y avait pas seulement des propriétés communautaires, mais aussi des petites propriétés, c'est qu'à la fin du 19e siècle, on commence en fait à privatiser ce qu'on appelle les terrains vagues, lesquels incluent en fait l'accès à l'eau, les forêts, les pâturages qui n'étaient pas cultivés et qui étaient considérés comme expropriables et vendables parce que ce n'étaient pas des propriétés agricoles proprement dites. Donc ces ressources-là, elles sont concentrées entre les mains de quelques grands propriétaires fonciers. Donc les communautés qui avaient avant de l'eau pour pouvoir cultiver leur terrain, etc., se retrouvent sans ressources pour pouvoir survivre et cultiver. Et commencent à travailler pour ces grands propriétaires fonciers qui les exploitent à outrance. Et c'est de cette expérience-là que vient, entre autres, ce révolutionnaire, cette grande figure révolutionnaire du Mexique, Emiliano Zapata, qui, justement, dans les années, à partir de la fin du 19e siècle, au début du 20e, il commence à se mobiliser avec les paysans de sa région, de l'État du Morelos, contre les expropriations, la vente et la privatisation de ces ressources-là qui met en danger leur survie.
Et vous l'avez dit, la révolution mexicaine, Cubaine provoque assez rapidement le départ de Porfirio Diaz, qui sera resté près de 35 ans au pouvoir donc. Mais cette révolution débouche sur une guerre civile qui va durer près de 10 ans. Pourquoi cela? Quelles sont les divisions qui interviennent à ce moment-là, Eugenia Pagliaracchi?
Oui, on a souvent décrit la révolution mexicaine comme une révolution peu idéologique, mais en réalité, si on regarde attentivement, il y a beaucoup d'idéologies qui s'affrontent de façon de plus en plus structurée. Et donc, au début, c'est une mobilisation anti-autoritaire et pour des élections libres. Mais de plus en plus, en fait, on voit se constituer, on dirait, trois camps. Celui qui veut rester dans le porfiriat, qui ne veut pas de changement, ne veut pas de révolution. Donc les contre-révolutionnaires qui parviennent à retourner au pouvoir pendant un laps de temps très bref. Et puis, les révolutionnaires qu'on va appeler les constitutionnalistes, ce sont eux qui emportent la révolution à la fin, qui veulent surtout un changement de régime politique et veulent éviter les réformes sociales, mais finissent par transiger et finissent par faire des concessions et des vraies réformes, impulser de vraies réformes socio-économiques quand ils arrivent au pouvoir. Et puis ces armées très populaires, celle de Zapata dans le centre-sud du Mexique, qui est une armée surtout paysanne, et puis cette autre armée de Pancho Villa, qui est une sorte de bandit révolutionnaire, petit propriétaire terrien, qui rassemble des mineurs du nord du Mexique, quelques paysans, et même quelques prêtres et des libéraux, etc. Et donc ces deux camps, le camp plus social de la révolution et celui des constitutionnalistes, vont s'affronter et ce sont les constitutionnalistes qui l'emportent à la fin des années 1910.
Tina Modotti, elle, va se placer plutôt, comme beaucoup d'intellectuels et d'artistes de gauche de cette époque, du côté des zapatistes. Alors on va continuer à en parler et voir comment peut-être cette révolution a été confisqué ensuite par les constitutionnalistes. Mais d'abord, le saxophoniste et clarinettiste italien Francesco Bearzati a dédié un album à Tina Modotti avec son quartet Tinissima et l'une des chansons s'appelle Mandy Friul. Entendez-vous l'écho? Nous continuons à parler de l'économie selon la photographe italienne Tina Modotti. L'écrivain Gérard de Cortanze et l'historienne Eugenia Pagliaracchi sont toujours avec nous dans cette émission réalisée par Françoise Le Floch avec l'aide d'Inès Barja et mise en onde par Félix Delacour et Jordan Fuentes. Alors dans les années 20, Tina Modotti parcourt le Mexique avec son appareil photo, un pays qui a donc connu ce soulèvement armé contre le dictateur Porfirio Diaz dont la politique étranglait entre autres les pays mexicains. Quels vont être les acquis de cette révolution? Qu'est-ce qu'on peut dire de cette constitution de 1917? Elle est plutôt radicale pour l'époque, Eugenia Pagliaracchi?
Oui, elle est très radicale pour l'époque. En fait, elle reprend des revendications qui ont été celles du mouvement zapatiste, bien que les constitutionnalistes étaient les ennemis dans la guerre civile mexicaine des zapatistes. Mais les demandes sociales qui viennent du zapatisme et de l'armée de villas sont reprises dans la Constitution de 1917. Et donc, cette Constitution, elle est à la fois supposément libérale, même si ce libéralisme politique et cette supposée démocratie qu'elle devait instaurer n'est jamais vraiment respectée pendant tout le XXe siècle, en réalité. Et ensuite, il y a ce côté social, avec une législation très ambitieuse de protection des ouvriers. Et cette constitution prévoit aussi la nationalisation des ressources du sol et souterraines, ce qui permet de faire une réforme agraire et aussi de nationaliser plus tard le pétrole. Donc 1917, c'est la date de promulgation de la constitution, mais ces réformes ne seront mises en place que bien plus tard, dans les années 1930, de 34 à 40, sous la présidence de Lázaro Cárdenas. La période avant est celle de pacification du pays, de reconstruction et d'institutionnalisation de la révolution.
Et justement, sur cette réforme agraire inscrite dans la Constitution, que permet-elle ? Elle permet notamment de restituer des terres aux communautés villageoises qui avaient été spoliées, Eugenia Paliaraki ?
Oui, elle permet de rendre les terres, elle permet de redistribuer, de recréer des petites propriétés, d'organiser aussi les paysans. Donc la syndicalisation paysanne et ouvrière va être très fortement promue par le nouveau régime révolutionnaire, ce qui permet à la fois le renforcement et l'organisation de ces milieux sociaux et professionnels, et en même temps leur encadrement et leur incorporation dans le nouvel État mexicain qui affirme les mouvements ouvriers et paysans, mais veut les contrôler aussi et canaliser leur énergie.
Peut-être sur cette réforme agraire, Gérard de Cortance, et cette confiscation de la révolution par les constitutionnalistes, et en tout cas une relecture qui a pu être faite, une relecture marxiste.
C'est-à-dire, en fait, en vous écoutant, je me disais... Comment dire, quand Tina et toute sa bande en fait vont au Mexique, ils sont au courant sans l'être de tout ça. C'est-à-dire, ils ne vont pas au Mexique pour ça. D'ailleurs, ils y vont entre. En fait, Tina est allée au Mexique de 23 à 30. Ensuite, on en reparlera, elle a quitté le Mexique de 30 à 39 et elle revient de 39 à 41, 42. Mais elle va essentiellement au Mexique parce qu'il y a une effervescence culturelle. Et d'ailleurs, il y a une lettre de Robot, qui lui envoie juste avant de mourir, où il dit à Edward Edson et à Tina et à tous ses amis qui sont autour d'eux, il leur dit mais venez, parce que tout est possible au Mexique. Et c'est vrai que là, on est un peu éloigné de la révolution, mais comment il y a tout le ferment, le côté vif argent de la révolution qui est là. C'est-à-dire que il y a des écoles, on apprend, comment dire, ces paysans qui étaient incultes, on ouvre des écoles. Alors d'ailleurs, les instituteurs, vous pourrez le confirmer, risquent leur vie en allant porter la bonne parole du savoir dans les campagnes. Il y a des musées qui s'ouvrent, il y a tout le courant du muralisme. Et il faut ajouter à cela, les fascismes qui commencent à s'installer en Europe, et donc il y a une flopée, il n'y a pas d'autre mot, il y a un fleuve d'intellectuels, d'artistes, de militants politiques, de penseurs, de philosophes
qui
se réfugient au Mexique. Et c'est pour tout cela que Tina veut aller au Mexique. Et alors c'est vrai qu'il y a tous les problèmes de constitution, de confiscation, de la thématique de la révolution, mais au fond, alors elle va quand même traverser tout cela, parce que elle est le Parti communiste va être interdit à un moment. Donc elle est au cœur de cela. Mais
sachant qu'elle a pris sa carte au Parti communiste.
Oui, mais alors, attends, justement, elle n'a pris sa carte qu'en 27. Donc elle arrive en 23, donc elle ne prend pas sa carte tout de suite. Alors même si, évidemment, alors pour schématiser, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, disons qu'elle est compagnon de route, et que tous les intellectuels, comment dire, ceux du mouvement estridentista, ou les muralistes, ils sont tous plus ou moins affiliés au Parti communiste, en tout cas au Parti de gauche et aux partis qui sont pour les réformes. Mais donc, faut bien essayer de resituer Tout ça dans ce mouvement par rapport à la révolution, je trouve.
Eugenia Paliraki.
Oui, pour ajouter, en fait, il y avait le Mexique est un pays qui a une histoire culturelle, une tradition intellectuelle de longue durée, qui avait été d'ailleurs soutenue par Porfirio Diaz, et ce sont ces mêmes intellectuels qui souvent se tournent contre lui. Tina Modotti, elle arrive à un moment où il y a en même temps cette effervescence intellectuelle beaucoup portée par José Vasconcelos, donc le ministre de l'éducation publique, et qui crée des écoles rurales, et qui soutient les ruralistes.
Mais qui sort de la préparatoria, qui est une sorte de grand de mélange de Rudulme et de Lice Henri IV, où toute une génération d'intellectuels qui vont tous diriger le Mexique sont sortis, dont le ministre.
Tout à fait, et qui est un proche du zapatisme avant de s'en éloigner et de rejoindre
les constitutionnalistes. Il y a un autre élément, peut-être, dont on n'a pas abordé, il faudrait parler, c'est le machisme ambiant. C'est-à-dire que tout ça, c'est très bien, la révolution, mais les femmes restent les femmes, elles doivent rester à leur place.
Et c'est pour ça que c'est intéressant de parler de Tina Modotti dans cet environnement culturel, dans cette effervescence intellectuelle que vous évoquez. Vous avez parlé du mouvement muraliste qui naît effectivement notamment de la volonté du gouvernement mexicain de forger l'imaginaire de ce nouveau Mexique né de la révolution, et donc dans les rangs de ce mouvement se trouvent Diego Rivera, Frida Kahlo et puis beaucoup d'autres artistes qui se rassemblent chez Tina Modotti, comme le raconte le romancier Patrick Deville dans son roman Viva. Douze apôtres s'assemblent autour de Tina Modotti. C'est au sein de cette petite bande que tout se joue, que se joue la vie et la mort du proscrit, l'avenir de l'art et aussi celui de la révolution. C'est une maison blanche ensoleillée au toit en terrasse, une machine à écrire, un phonographe, des fleurs dans les vases. Le jeu de la lumière en ocelle au long des murs blancs cholés. Sur une table, un exemplaire d'El Machete, avec en frontispice la faucille et le marteau. C'est à Mexico, au milieu des années 20, dans cette décennie pendant laquelle tout s'invente, le monde est à neuf dans le chaos régénérateur. C'est 10 ans après l'entrée à cheval dans Mexico du métis du Chihuahua et de l'indien du Morelos, Zapata et Villa. Les paysans en sarape armés de machettes qui campent sur le Zocalo de Mexico. C'est un milieu d'exilés et leurs amis mexicains sont des citadins. Ces années 20 verront se mêler dans leurs œuvres l'amour et la mort et la danse macabre des traîtres et des héros. C'est chez elle que tous se réunissent, dans la maison blanche, au toit en terrasse. À la droite ou à la gauche de Rivera, sous les ailes éployées de la Tina, composons la fresque, énumérons. Weston, Orozco, Siqueiros, Traven, Sandino, Mayakovsky, Dos Passos, Kahlo, Melia, Guerrero, Vidali, la petite bande des 13. Voilà, c'était donc un extrait de Viva de Patrick Deville paru en 2016 au Seuil. Les muralistes, comme Diego Rivera, sont des artistes, mais ils acceptent d'être payés comme des artisans, Gérard de Cortance.
Absolument, ils créent un syndicat et ils sont payés enfin comme des ouvriers, enfin comme des qui travaillent le plâtre ou la faïence ou comme des maçons, enfin ils ne veulent pas être payés comme surpayés comme des artistes. Enfin,
ces peintures sont des actes militants.
Voilà, ce qui n'empêche pas Diego quand même quand il va faire des fresques pour Rockefeller ou pour Ford aux États-Unis, d'être quand même grassement payé. Mais ça, on ferme la parenthèse.
C'est un autre projet.
Mais c'est vrai que ce qui est très important pour le muralisme, c'est que au fond, c'est un peu comme le vitrail, vous savez, au Moyen-Âge, dans la religion catholique, on explique à la population enfin, d'où elle vient. Et là, ce qui est très important, c'est de dire, eh bien, vous ne venez pas de l'Europe, mais vous venez de ce fond aztèque, de ce fond indigène, de toute une histoire qui vous a été confisquée.
Oui, et ces peintures murales dénoncent notamment le porphyrisme, l'oligarchie, les grands propriétaires terriens, Eugenia Paliraki.
Tout à fait, le muralisme raconte à la fois les causes de la révolution, mais aussi imagine cette nouvelle nation, ou redéfinit la nation mexicaine, qui est indigène en premier lieu, métisse, enfin, la race cosmique dont parlait Vasconcelos, et qui tire beaucoup d'orgueil aussi, et parce que, voilà, au Mexique, contrairement aux États-Unis ou en Europe, on a l'ensemble des place du monde, qui viennent former une nouvelle nation, une nation promise, on le pense, à un bel avenir.
Tina Modotti, elle, va se lancer dans tout un travail photographique autour des travailleurs du Mexique. Est-ce que vous pouvez nous décrire, Eugenia Pagliaracchi, quelques photos? Il y a des paysans, des matelots au travail, il y a aussi des ouvriers, et puis souvent elle se concentre sur des détails. Souvent ce sont les mains faisant la lessive, les mains sur un outil. Quelles sont ces photos peut-être les plus marquantes?
Oui, moi je vois dans sa photographie, mais on en discutera, vraiment un reflet, enfin à la fois cette personnalité forte et ce regard très particulier, et en même temps un vrai reflet de son époque qui est marqué à la fois par l'avènement de l'anthropologie au Mexique, qui explique en fait l'importance des indigènes et aussi de ces cultures et de cet art populaire qu'on voit dans beaucoup de photographies de Tina Modotti. Elle réfléchit aussi à la place de la femme. Elle est entourée, même s'il y a effectivement énormément de machisme à l'époque dans la société mexicaine et pas que, elle est entourée quand même par des figures féminines extrêmement puissantes, de grands intellectuels, des artistes avec qui elle collabore, qui deviennent des amis proches. Donc il y a à la fois, et on est à un moment d'émancipation des femmes, hein, d'un mouvement féministe socialiste aussi à la fois. Donc elle s'inspire de ça, elle montre dans ses photos les conditions de vie des femmes, leur exploitation, le fait, il y a beaucoup de photos où on voit des femmes indigènes laver des vêtements, et puis les masses, les paysans. Ces magnifiques photos qu'on a évoquées tout à l'heure, de manifestations, de rassemblements politiques aussi. Donc il y a à la fois cette demande d'émancipation féminine et aussi elle devient par ces photos un porte-parole des mouvements populaires.
Et si on lançait une revue ?
Une revue ?
Oui, pour porter la bonne parole communiste au peuple.
Une feuille vaste, éclatante, sanglante, grande comme un drap de lit.
Quelle emphase, grand Dieu. Le sang, le peuple.
Toi, t'es pas d'accord, évidemment.
Mais tu sais bien que non. C'est pas ce qui m'intéresse au premier chef. Enfin, je t'apprends rien.
Et qu'est-ce qui t'intéresse? Le peuple, ses luttes, tu t'en fous.
Hé, hey, les filles, c'est un tribunal? Vous vous croyez à Moscou?
Tu dis encore un truc comme ça, je descends.
Te donne pas ce mal. C'est moi qui descends.
Et sois pas stupide, on est à des kilomètres de l'avenue Veracruz.
Ça me fera marcher. Ça me fera du bien.
Donc ça va entre vous?
Moyen, je m'en fous.
Bon, quel titre on va donner à notre journal?
Moi j'en ai un depuis le début. Pour moi, il n'y en a pas d'autre. El Machete.
El Machete? Pourquoi?
La machette. C'est symbole du travailleur des champs insurgé contre les grands propriétaires terriens.
Formidable. Et on va demander à Guerrero de dessiner le logo. J'imagine assez bien une longue machette rouge sang.
Ouais, et Ribera et Siqueiros donneront des illustrations.
Et moi des articles. Et puis des photos, bien sûr.
Et ton Yankee, il nous passera des photos.
Ça m'étonnerait. Et comment on va le distribuer? On va pas le distribuer, on va le coller sur les murs, comme des affiches.
Voilà un extrait de Tina Modotti, femme libre et photographe engagée, une fiction dont vous êtes l'auteur, Gérard de Cortance, qui a été réalisée par Christophe Hocquet pour France Inter. On a parlé de cet intérêt de Tina Modotti pour le travail des paysans et plus encore celui des femmes. Qu'est-ce qui vous marque, vous, Gérard de Cortance, dans ces photographies des travailleurs et travailleuses par Tina Modotti?
Je voudrais juste revenir sur ces photos, parce qu'on a oublié il y a deux aspects aussi très importants pour elle, c'est les natures mortes et puis les photos plus formalistes. C'est-à-dire les natures mortes, par exemple, le chapeau mexicain avec faucille et marteau, c'est une composition. Alors là, il n'y a rien de plus politique que ça, puisqu'il y a le chapeau des travailleurs mexicains, la faucille, bon, et le marteau, c'est pas la peine d'expliquer ce que ça veut dire. Il y a tout le côté formalisme graphique, c'est-à-dire, il y a une photo qui s'appelle « vert » au pluriel, ce sont des vers. Mais on ne voit pas que ce sont des vers. Des cannes à sucre qui sont prises de très très près. Des fils électriques. Alors ça, il y a tout un courant à l'époque. Molin Hodge, le Hongrois, hein, il y a ça aussi. Mais donc je trouve qu'il faut jamais oublier ça. Et c'est ça qui va être la grande différence entre Weston, et c'est une des raisons pour lesquelles ils vont se séparer. Parce qu'Edward Weston, lui, c'est l'art pour l'art. Alors, c'est un immense photographe, mais tout le côté politique ne l'intéresse pas. Or Tina Modotti, alors on en parlera peut-être par la suite, c'est pour ça que je suis pas d'accord quand on dit qu'elle a définitivement abandonné la photo pour l'action politique, moi, je ne crois pas du tout.
Alors, il faut expliquer, parce qu'effectivement, en 1930, Tina Modotti est expulsée du Mexique. Elle retourne en Europe parce qu'elle a été accusée, à tort, d'avoir participé à un attentat contre le président mexicain, Pascual Ortiz Rubio. Elle passe par Berlin, puis par Moscou, et ensuite, elle s'engage aux côtés des Républicains lors de la guerre d'Espagne. Et en effet, elle ne photographie pas cette guerre. Pourquoi ce choix, Gérard
Garcia ? Ce n'est pas si simple. C'est-à-dire que... D'abord, avant de partir, d'être expulsé, parce qu'on l'accuse d'avoir participé à un attentat, ce qui est absolument faux, on lui a proposé un poste au Musée national de la photographie. Mais elle ne veut pas parce que c'est un certain type de photo qui ne correspond pas à ce qu'elle veut faire. Quand elle va à Berlin, alors c'est les bonnes époques, hein, c'est-à-dire que le parti nazi est en train de tripler c'est le nombre de ses députés à la Chambre. Elle fait des photos à Berlin. Des photos de religieuses, des photos de bourgeois devant le zoo. Donc, elle n'a pas du tout abandonné. Elle écrit une lettre à Weston dans laquelle elle lui demande d'acheter un Leica. Quand elle va à Moscou, elle refuse de travailler pour les services
De propagande.
De propagande, parce qu'on lui demande un certain type de photos. Elle est prête à aller, elle est envoyée en mission. Par Moscou, en Chine et au Japon, pour prendre des photos, manque de chance, le projet échoue. Alors, il y a là toute la parenthèse de la guerre d'Espagne, mais la guerre d'Espagne, on comprend tout à fait. D'abord, elle est à Madrid en 35, avant que la guerre d'Espagne n'éclate. Elle va quitter Madrid elle va quitter l'Espagne quand Barcelone est encerclée par les franquistes. C'est une des dernières à quitter Barcelone. Et là, elle le dit très clairement. Elle en parle avec Greta Garo à l'époque. Elle lui dit mais moi, je ne fais plus de photos. Maintenant, parce que elle travaille avec Norman Bethune, qui est celui qui invente la transfusion sanguine.
Oui, son engagement est humanitaire, son engagement artistique.
Sur tous les fronts, alors sur toutes les grandes batailles de la guerre d'Espagne, elle est là. Donc elle a vraiment autre chose qu'à faire des photos. Et quand elle revient au Mexique, dans un premier temps incognito, parce que avant que Cárdenas justement lui l'autorise et abolisse l'expulsion, l'autorise à reprendre son nom et à vivre tranquillement au Mexique, elle cherche à acheter un Leica. Et il y a un événement moi qui je trouve extrêmement troublant, c'est quelques mois avant sa mort, elle a une petite voisine qui est enceinte, qui est très jolie. Donc elle va se promener un jour dans un parc de Mexico avec le mari de cette voisine, et elle prend des photos de la jeune femme en question. Et dans le même temps, alors qu'elle vit avec Vidali, qui était un stalinien,
convaincu.
Mais convaincu, c'est dément. D'ailleurs, ils ne s'entendent pas du tout, tous les deux. On se demande d'ailleurs pourquoi est-ce qu'elle a vécu avec Vidali. Vidali est arrêté. Il est arrêté par la police. Et donc, réflexe de militant, elle se dit, les flics, la police va venir chez moi, donc je brûle tout. Et c'est fou quand on y pense. C'est-à-dire qu'elle a brûlé des négatifs, des documents, et notamment les photos de cette jeune femme qu'elle avait commencé à développer. Et donc je crois pas du tout, qu'elle ait abandonné la photo. Et n'oublions pas qu'on est qu'en 1940. Je veux dire, elle a 46 ans.
Donc elle pense qu'elle a encore mais bien une partie évidemment de sa vie devant elle. En effet, Eugenia Paliraki.
Oui, juste ajouter très rapidement que ça en est une chose de faire de la photographie dans un pays où la révolution a triomphé, hein, où il s'agit de faire passer l'engagement politique et social par la représentation du peuple, par l'éducation populaire à laquelle elle souhaite participer. Et ça en est une autre de participer à une révolution en cours et de vivre des défaites comme celle de l'Espagne, où il n'y a certainement pas beaucoup de place pour l'art engagé.
Mais elle meurt en effet de façon précoce d'une crise cardiaque. À l'âge de 46 ans, nous sommes en 1942, son œuvre photographique va alors plus ou moins tomber dans l'oubli, Gérard de Cortance, avant d'être redécouverte plus tard.
Comme Frida Kahlo. C'est-à-dire que ce sont des femmes, donc ça tombe dans l'oubli.
Et comment s'opère la redécouverte dans les années 70 de l'œuvre de Tina Modotti?
C'est différent de Frida Kahlo. Frida Kahlo, ce sont les lesbiennes américaines. Alors, alors c'est drôle parce qu'il y a une erreur historique parce qu'ils en font une lesbienne alors qu'elle n'est pas lesbienne, elle est plutôt bi, hein. Mais Heureusement qu'elles étaient là pour ressortir Frida de l'oubli. Les photos de Tina Modotti, c'est un peu différent. Parce que petit à petit, comme dit Weston, s'en est beaucoup occupé. C'est-à-dire qu'il a, quelques mois après sa mort, il a organisé une énorme exposition à Mexico. Déjà. Et donc, lentement, le nom de Tina Modotti et puis l'Italie s'en est beaucoup occupée. Il y a eu un musée, donc c'est une histoire un peu différente de celle de Frida Kahlo. C'est-à-dire qu'elle n'est pas totalement tombée dans l'oubli si longtemps que ça.
Avant de nous quitter, j'aimerais vous faire entendre un poème de Pablo Neruda en hommage justement à Tina Modotti, et c'est Diane devant celle de l'équipe d'Entendez-vous l'écho qui va le lire.
Tina Modotti, ma sœur. Tu ne dors pas, non, tu ne dors pas. Peut-être ton cœur entend-il pousser la rose d'hier, la dernière rose d'hier, la rose nouvelle. Repose doucement, ma sœur. La rose nouvelle est pour toi et la nouvelle terre. Tu as mis un nouveau costume de profondes semences, et ton suave silence se remplit de racines. Tu ne dormiras pas en vain, ma sœur. Pur est ton doux nom, pure est ta fragile vie. D'abeilles, d'ombre, de feu, de neige, de silence et d'écume, d'acier, de lignes de pollen, s'édifie ta frêle structure de fer.
Merci beaucoup Gérard de Cortance et Eugenia Paleraiki de nous avoir accompagnés, emmenés dans cet imaginaire politique, social, économique de Tina Modotti. Eugenia Paleraiki, vous êtes l'autrice avec Clément Thibault de cet ouvrage « Deux siècles de révolution et de contre-révolution, l'Amérique latine embrasée » qui est paru chez Armand Collin l'an dernier. Et vous êtes également l'autrice d'un autre ouvrage intitulé « Naissance d'une révolution historique critique du Mire chilien » qui est paru aux éditions Terre de Feu l'an dernier. Gérard de Cortance, quant à vous, on peut vous lire cet ouvrage dont vous êtes l'auteur, s'intitule « Moi, Tina Modotti, heureuse parce que libre », qui est une phrase qu'elle prononce dans l'une des lettres qu'elle envoie à Edward Weston.
C'est pas n'importe quelle phrase.
Et c'est une phrase très importante, parue votre livre chez Albin Michel en 2020. Un grand, grand merci à tous les deux.
Merci à vous. Thin air.
C'est la fin d'Entendez-vous l'écho. Comme chaque jour, on se quitte avec une découverte musicale. Aujourd'hui, c'est The Dream of Delphi, le nouveau titre de la britannique Bat for Lashes. Demain, comment la France est-elle devenue le deuxième plus grand exportateur d'armes au monde? Aliette Ovine posera la question à Julien Malizard et Catherine Hoffler. D'ici là, vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France. On vous attend également sur X, sur le compte d'Entendez-vous l'écho et en vidéo sur YouTube.